Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est mercredi prochain, le 17 avril, que sera présenté en Conseil des ministres le nouveau pacte de stabilité financière au moment où le bateau tangue sérieusement pour la majorité. Un déficit en roue libre, non plus 10 mais 20 milliards d'économies à trouver en 2024, des frictions entre Emmanuel Macron et son ministre de l'économie Bruno Le Maire et les oppositions qui s'en donnent à cœur joie, menaçant le gouvernement de censure. Le chef de l'État maintient sa stratégie, il préfère miser sur la croissance que sur les coupes budgétaires. Est-ce bien réaliste? Quelles sont les pistes d'économie à l'étude? Nos aînés pourraient-ils être mis à contribution? Dette, retraité, épargne, où trouver les milliards? C'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, Philippe Dessertine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et directeur de l'Institut de Haute Finance. Je cite votre dernier livre, Le Grand Basculement, chez Robert Laffont. Emmanuel Titel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Je cite votre dernier édito, Finances publiques, la fête est vraiment finie. Ce qui donne le ton. Pascal Hébel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice associée chez C-Ways, spécialiste des questions de consommation. Enfin, Raphaël Legendre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Opinion. Je cite votre dernier édito, Déficit, l'inquiétante fuite en avant. Merci à tous les quatre de participer à ce C'est dans l'air en direct. Philippe Dessertine, je voulais commencer par cette citation du Premier ministre il y a deux jours. L'état des finances publiques est tenu, dit le Premier ministre Gabriel Attal. Bon, tout va bien alors.
Oui, ça change. On avait eu un Premier ministre autrefois qui disait qu'il était à la tête d'un État en faillite, qui était beaucoup moins pire qu'aujourd'hui, mais donc effectivement c'est tenu. Non, je crois qu'effectivement la question de la confiance, évidemment, va être capitale. On est aujourd'hui dans de la communication, mais une communication dont on sent bien qu'elle est doublée aussi, on va dire, d'actions en urgence, un peu partout au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, dans le mode de fonctionnement et dans le lien avec l'Europe, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'affoler les Français, et là sans doute que Gabriel Attal était dans son rôle, mais il s'agit aussi de regarder comment nous n'allons pas avoir un dérapage supplémentaire qui pourrait, là, véritablement devenir dramatique.
Mercredi, Bercy a donc revu à la hausse ses prévisions de déficit pour 2023. Ce n'est plus 4,4%, mais 5% du PIB. Comment c'est possible ? Comment on peut passer aussi de 10 à 20 milliards d'économies à réaliser, et ça en l'espace de quoi, de quelques semaines?
C'est vrai que c'est la question que quand même tout le monde se pose, à laquelle on n'a pas tout à fait la réponse, parce que d'habitude, s'il y a bien une administration qui fonctionne en France, c'est vraiment la direction du Trésor. C'est-à-dire qu'il y a des perspectives assez correctes, et on sait très bien lever l'impôt, on est même parmi les recordman au monde pour le faire. Quand la Grèce savait plus le faire, c'est les Français qui ont été envoyés là-bas pour les aider à relever correctement l'impôt. Donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'on est dans une situation assez ubuesque. Alors, il y a malgré tout des raisons, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de méthode couée du côté de Bercy, qui a cru sûrement à un moment que peut-être que la croissance allait un peu mieux résister que ce qu'elle a résisté. Et si ça a tant baissé que ça, c'est qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup moins d'argent rentré sur ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, donc on va caricaturer, mais grosso modo sur ce que gagnent les entreprises. Et c'est ça qui explique en grande partie le dérapage. Mais c'est quand même un vrai problème, parce que ça pose la question d'une forme de sincérité. Ils ont attendu vraiment le tout dernier moment pour commencer à dire « Ah mince, on s'est trompé », et encore, il a fallu le faire en deux temps, comme si on n'avait pas pu le faire dès le premier coup. Donc ça pose quand même un vrai problème sur la sincérité, et derrière cela, ça pose un autre problème, c'est qu'on arrive quand même à un niveau aujourd'hui qui montre que nous n'arrivons pas à réduire nos dépenses. Et je cite Bruno Le Maire, mais il avait dit l'été dernier à Aix, aux rencontres économiques d'Aix, il dit « Nous, quand il s'agit de dépenser, on est les plus rapides et les plus inventifs au monde. Quand il s'agit de revenir en arrière, il n'y a plus personne. » Et je pense qu'on est vraiment là-dedans, on ne sait plus faire des économies aujourd'hui.
Et on garde malgré tout des objectifs. Le ministère de l'économie poursuit cet objectif de ramener la France sous la barre des 3% d'ici 2027. Qui y croit encore, Raphaël Legendre ?
Pas les agences de notation, en tout cas, qui ont d'ores et déjà prévenu il y a quelques jours que cet objectif serait très difficile à tenir. Les différents observateurs avisés sont aussi assez prudents sur cet objectif. C'était la promesse qu'on nous faisait déjà l'année dernière. C'est même une des promesses cardinales d'Emmanuel Macron pour son quinquennat. C'est un, le plein emploi. Deux, ramener les comptes et les déficits sous les 3%. Il maintient coûte que coûte cet objectif, c'est un objectif politique. La marche pour y arriver sera encore plus difficile l'année prochaine, puisqu'il faudra réduire d'un point de PIB le déficit, ce qu'on n'a pas vu depuis des années. C'est donc C'est donc très peu certain qu'on arrive effectivement à cet objectif de 3%, moins de 3%, 2,9% en 2027.
Pascal est belge. Basiquement, on a surtout un problème de dépenses ou de recettes en France ?
Alors là, c'est vraiment un problème de... Enfin, on voit bien que c'est les dépenses qui ont beaucoup augmenté, hein, notamment du côté des charges sociales, les retraites et les dépenses de santé. C'est de ce côté-là que ça a le plus augmenté. Donc en termes de recettes, on a un ralentissement qui n'a pas été prévu en fait. Hein. On voit bien qu'il y a à la fois sur l'impôt sur les sociétés, il y a la consommation qui est en fait en panne. Et en fait, même s'il y a eu une inflation importante, on disait il n'y a pas longtemps, l'inflation était tellement forte que les recettes auraient dû être énormes, mais en fait, la consommation est en panne. Et donc, finalement, cette partie-là de la TVA sur une inflation n'a pas été aussi forte que prévu.
Raphaël Legendre, vous évoquiez les agences de notation. Dans quelques semaines, elles vont donner la note de la France. Est-ce vraiment un problème si la note de la France est dégradée ?
Alors le problème, c'est pas tellement l'agence de notation. Si vous voulez, l'agence de notation, c'est le thermomètre, quoi. C'est savoir si on a vraiment la fièvre.
Alors c'est ceux qui regardent le thermomètre.
Voilà, ils vont nous donner une indication, mais ensuite la vraie question, c'est de savoir si les taux d'intérêt auxquels la France emprunte vont augmenter. Et là, on retrouve la question de la communication, la question de la confiance avec les Européens. La raison pour laquelle ceux qui prêtent à la France pourraient augmenter le taux d'intérêt, c'est qu'ils commenceraient vraiment à craindre que la France soit dans un système dans lequel elle maîtrise plus sa dépense et que celle-ci enfle. On a vu ce cas en Italie, par exemple. Hein. Et donc là, pour le coup, on voit très bien qu'un gouvernement, quelles que soient ses annonces, du coup, est obligé, brutalement, de prendre des mesures très, très fortes, parce qu'il doit envoyer des signaux. Sachant, répétons-le, que ceux qui achètent la dette, c'est pas les Français. Les Français, ils en ont beaucoup, mais ils n'achètent pas la dette supplémentaire. Donc c'est vraiment l'extérieur qu'il faut convaincre. Et donc, les agences de notation, si elles baissent la notation, mais si l'ensemble de l'Europe, et en particulier nos grands partenaires du Nord, et en particulier l'Allemagne, dit non, mais ça change rien, on continue, on est solidaires. Là, normalement, ça ne bouge pas beaucoup. Le vrai danger, c'est qu'au fur et à mesure, on a bien le sentiment que nous sommes dans une situation de plus en plus tendue du point de vue européen, que là, on a M. Poutine qui joue, parce qu'évidemment, est-ce que l'Europe peut se permettre d'avoir une crise monétaire alors qu'elle a la guerre à ses frontières ? Mais d'un autre côté, la guerre fait aussi que les finances publiques de l'ensemble de l'Europe peuvent être tendues, que nos importations peuvent être tendues, en particulier du point de vue énergétique. La guerre, elle est aussi au Proche-Orient maintenant. Donc, ce sont des conditions dans lesquelles nos partenaires peuvent être, on va dire, moins cool avec nous. Vous voyez, plus intransigeants en disant non, non, mais là, tout le monde doit faire un effort terrible parce que sinon, on peut se retrouver avec quelque chose qui serait effectivement une croissance qui soudain s'effondrerait du fait des événements extérieurs et des finances publiques intenables, c'est-à-dire la zone euro en vraie difficulté.
Emmanuel Dutheil, qui sont nos créanciers, puisqu'on évoquait ceux qui regardaient justement, qui observaient le thermomètre et les agences de notation?
Bon, après, j'ai envie de dire, c'est un peu tout le monde, hein. C'est tous les pays du monde, c'est toutes les grosses entreprises, c'est tous les fonds d'investissement qui achètent de la dette française. Moi, je pense que, comme Philippe, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, surtout que ça va se passer, entre guillemets, dans un bon moment, puisque les taux vont baisser. La Réserve fédérale américaine va baisser ses taux et l'Europe va sûrement baisser ses taux, sûrement cet été, un petit pronostic sur le mois de juin. Donc ça va arriver à un moment où notre dette va coûter un tout petit peu moins cher. Donc ça pourrait compenser l'espèce de petite hausse qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal.
Après, mais si on a plus de mal à emprunter, si on n'arrive plus à emprunter, qu'est-ce qui se passe ?
Mais ça peut pas arriver. C'est-à-dire qu'il faut pas faire peur non plus aux gens. C'est-à-dire, ça arrive dans des cas extrêmes, l'Argentine ou la Grèce, mais des pays qui vont beaucoup plus mal que nous. C'est pas parce qu'on est dégradé d'un cran que ça va être le drame. Ça va. Je vous assure qu'il se passera rien samedi matin dans 15 jours.
Une fois que les agences seront
sera pareil. Il faut pas faire peur aux gens.
Ouais, bien sûr.
C'est pas grave. Sur le principe, après, ce qui est très grave, c'est que notre dette, on parlait de la réduction du déficit, dans les années à venir, il ne prévoit même pas le gouvernement de réussir à réduire notre dette. Et ça, c'est grave. Pourquoi ? Parce que malgré tout, on va devoir payer toujours plus cher pour rembourser nos dettes. Et ça, c'est déjà prévu, quelle que soit la note qui va tomber. Et ça, c'est quand même fou de se dire que notre plus grosse zone de dépense avec l'éducation nationale, c'est le remboursement de la dette. Et quand on dit qu'on laisse de la dette... Les intérêts de la dette, bien sûr.
Les intérêts de remboursement.
Vous avez raison de le préciser. Et ça, c'est grave. Parce que c'est un moment où on est face au plus grand plan d'investissement depuis la Seconde Guerre mondiale. On doit refinancer les services publics, l'école, la santé. On n'avait pas prévu, mais il faut faire l'armée aussi. Il va falloir dépenser plus d'argent que ce qui était prévu. En même temps, vous devez financer la transition écologique, la décarbonation. Vous devez électrifier votre pays. Mais on a jamais eu autant de dépenses face à nous prévues. Et j'oublie même le grand âge. Là aussi, c'est des dizaines de milliards. Donc ce qui est fou, c'est qu'on est acculé, on est face au mur, au moment où on va devoir trouver les solutions pour financer le plus grand plan d'investissement de notre vie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça qui est grave. L'agence de notation, Allez, c'est la cerise sur le gâteau.
La sanction, elle sera politique, hein, quand même.
C'est sûr.
Le 26 avril, vous avez deux agences de notation, Fitch et Moody's, qui effectivement, potentiellement, pourront dégrader pour la première fois la France depuis la crise financière. Ça n'est pas rien. Avec un Bruno Le Maire qui sera forcément comptable de cette dégradation, puisqu'il est à Bercy depuis 2017, Bruno Le Maire. Et Emmanuel Macron, bien sûr, qui n'est pas le plus rigoureux des présidents de la République en matière de dépenses. Deux ou trois jours plus tard, le 29 avril, vous avez un débat à l'Assemblée nationale sur les finances publiques qui sera évidemment le moment pour les oppositions de taper à bras raccourcis sur l'exécutif, sur la mauvaise gestion des données publiques, le tout en pleine campagne européenne. La gestion des finances publiques en France impacte l'ensemble de l'Union européenne, avec un voisin allemand qui lui a su réduire sa dette, qui lui sait tenir ses déficits, et le mauvais élève de la classe, eh bien, risque de créer des tensions sur l'ensemble du système. Donc il y a un vrai risque politique, peut-être davantage que financier, effectivement, parce que les émissions de dette qui sont gérées par BCE sont toujours sursouscrites. Ce qu'on dit sursouscrites, c'est-à-dire tout le monde veut acheter de la dette française, encore et toujours, parce qu'on sait lever l'impôt en France. Politiquement, ce sera un vrai camouflet pour l'exécutif.
Alors, merci pour la transition, car oui, effectivement, cette question ouvre une crise politique. La majorité se fissure, les oppositions commentent et menacent. On va revenir sur les derniers jours avec Magali Lacroze et Michel Bouy.
À Bercy, ces derniers jours, des annonces, des mauvaises nouvelles et des promesses. Pour 2024, le déficit public est révisé à 5,1% du PIB au lieu des 4,4% initialement prévus et promis à Bruxelles. Il va falloir faire des économies et préparer les esprits.
Nous avons eu une mauvaise surprise pour les recettes. On gagne moins, on dépense moins. C'est le bon sens. On fait des économies quand c'est nécessaire et là où c'est utile pour rétablir nos comptes publics.
Reste à trouver 10 milliards d'euros supplémentaires pour rééquilibrer les comptes de 2024. Un défi très politique.
Nous ne voulons pas augmenter les impôts des Français. La stabilité, la visibilité fiscale, c'est la solidité et le choc de notre économie. Nous n'augmenterons pas les impôts des Français.
Ça ne pouvait pas tomber plus mal, à quelques jours de l'arbitrage des agences de notation internationales qui pourraient bien dégrader la note de la France. Alors, à l'Assemblée, au Sénat, les ministres tentent de rassurer.
D'abord, nous avons plus de 7 milliards d'euros de réserves de précaution au sein des ministères, précisément pour faire face à ces risques et ces difficultés. D'autre part, nous avons engagé un dialogue avec les collectivités territoriales parce qu'elles doivent, vous le savez, elles doivent avec nous participer à cet effort de redressement des finances publiques.
Mais même avec ces réserves, le compte n'y est pas. Alors, différentes pistes sont envisagées, notamment une contribution financière de l'AGIRC-ARRCO. Le régime de retraite complémentaire, géré par les partenaires sociaux, affiche un excédent de plus de 4 milliards d'euros à faire pâlir d'envie l'exécutif. Mais voilà, en octobre dernier déjà, le gouvernement Borne avait tenté de s'approprier les recettes de la complémentaire.
Nous considérons qu'à horizon 2026, sur le total des excédents de l'AGIRC-ARRCO, 1,2 milliard sont des excédents qui n'existeraient pas sans la réforme des retraites que nous avons mise en place.
Réaction immédiate des syndicats à l'époque, on ne touche pas à la cagnotte.
C'est l'argent des salariés du secteur privé et c'est l'argent qui est dédié à leur retraite complémentaire. C'est de l'argent qui est géré paritairement organisation syndicale et patronale. Donc l'État n'a pas son mot à dire sur cette partie.
Ah là oui, vraiment, j'alerte vraiment le gouvernement. Pas question que le gouvernement remette en cause cet accord et aille
sinon,
se servir dans les caisses.
Sinon, il se passe quoi?
Ah bah sinon, on en décidera collectivement.
Le gouvernement avait fini par faire marche arrière, pas sûr que les partenaires sociaux aient changé d'avis. D'autres pistes sont envisagées pour trouver ces 10 milliards d'euros. Pour les connaître, il faut interroger ceux qui ont l'oreille de l'exécutif. Cet ancien de la Cour des comptes et de Bercy a été reçu par Bruno Le Maire très récemment.
Aujourd'hui, les retraités actuels, bon, ils ont un niveau de vie qui est supérieur à celui du reste de la population. Il n'y a qu'en France et en Italie où c'est comme ça. Et donc, il ne serait pas absurde de faire des économies sur les retraités actuels. Il y en a une qui est très simple, qui est très mécanique, qui consiste à ne pas indexer les retraites totalement sur l'inflation. Là, on vient de les revaloriser de 5%. On a mis 14 milliards d'euros sur la table. Si on les avait revalorisés de 4%, on aurait fait une économie de 3 milliards.
Peu à peu, une petite musique s'installe. Les retraités seraient des nantis.
On est dans des rares pays qui a une chose si absurde que le fait que les retraités ont un niveau de vie supérieur aux employés du secteur public qui ont eux-mêmes un niveau de vie supérieur aux employés du secteur privé. Alors que normalement, ça devrait être exactement l'inverse. Il n'est pas normal que les retraités gagnent, aient un pouvoir d'achat qui augmente plus que ceux dont le revenu est fragile.
Le gouvernement va-t-il oser toucher au portefeuille des retraités ? Un pari risqué à 2 mois des élections européennes.
Et chacun a sa petite idée sur le plateau, mais on va y revenir juste dans quelques minutes sur la question des retraités. D'abord, Emmanuel Macron disait il y a quelques jours, attention, il ne faut pas que ce soit la foire à la saucisse dans les jours qui viennent. C'est raté, non?
Forcément. En même temps, quand on a un trou pareil dans les caisses et qu'on se dit qu'il va falloir faire quelques sacrifices, il y a des idées qui jasent à droite, à gauche. Emmanuel Macron prône le calme des vieilles troupes. Très bien, il est quand même comptable de ce résultat catastrophique qui fait qu'on se retrouve avec plus de 150 milliards d'euros de déficit cette année. On perd un peu la grandeur des choses avec ces milliards qu'on jette de partout. Il faut quand même rappeler qu'un déficit à peu près moyen public il y a 10 ans, c'était entre 60 et 80 milliards, allez, 70 milliards en moyenne. On a augmenté de quasiment 100 milliards en vitesse de croisière, car l'année dernière, c'était pas une année de crise, hein. Le déficit public, le fonctionnement de tout cet argent public. On a eu le même déficit en 2023 qu'en 2020, année durant laquelle on a sociabilisé toute l'économie. Rappelez-vous, les salaires, les aides aux entreprises, une année de crise incroyable, on a dépensé comme jamais. Et il se trouve que l'année dernière, où c'était absolument pas le cas, on a fini avec le même niveau de déficit. Alors, il y a eu la crise énergétique, et les Français, les ménages français ont été beaucoup plus protégés, c'est vrai, que beaucoup de ménages européens, les entreprises aussi, ce qui nous a permis de repartir plus rapidement. Mais il est tout à fait anormal qu'en année normale, si je puis dire, on ait un tel niveau de déficit.
Question téléspectateur, à quel jeu joue Bruno Le Maire, ministre de l'économie depuis 7 ans, qui semble affoler et affole les Français ?
Ce qu'on a dit, c'est que c'est lui le ministre des Finances, on a dit l'économie, c'est le ministre des Finances, c'est-à-dire c'est lui qui est en charge du budget, c'est lui qui est en charge des engagements de la France, il faut le rappeler, quoi. C'est-à-dire d'ailleurs on évoquait la mi-avril, on va présenter notre trajectoire à l'Europe, c'est-à-dire c'est important normalement, c'est des engagements de l'État français par rapport à tous ses partenaires en disant voilà comment ça va se passer, donc c'est lui qui est logiquement en charge de cela par rapport en plus à ces questions, il a mis en œuvre et il a mis en avant le fait que lui était notamment vraiment garant. L'année dernière, il disait il n'y aura pas un euro dépensé s'il n'y a pas de recette en face. Alors d'ailleurs, il faut toujours le dire, hein, parce que là, on disait on n'avait que. L'euro près. On est à 70 milliards de déficit, mais c'est-à-dire qu'on n'a jamais réduit, déjà, hein, pour commencer. C'est-à-dire quand on dit on a l'argent pour les dépenses, ce n'est pas vrai. On ne l'a jamais. On a de la dette supplémentaire à chaque fois, puisque chaque déficit, chaque année, augmente la dette. Alors il y a des pays autour de nous qui réussissent à être à l'équilibre, voire même en excédent, en disant il faut qu'on réduise notre dette. En Europe, ils y arrivent, y compris des pays qui sont a priori pas forcément plus avantagés que nous, comme par exemple le Portugal, on parlait de la Grèce, mais donc c'est faisable. Là, c'est vrai que, évidemment, ce que l'on voit, parce que Bruno Le Maire, ça fait 7 ans qu'il est aux commandes de Bercy, en réalité, bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure avec l'expression la foire à la saucisse, c'est-à-dire que là, on cherche des milliards, on dit 10 milliards, 20 milliards, c'est une idée. Alors, on disait tout à l'heure improvisation, mais là, c'est une improvisation tragique, c'est-à-dire que la question du déficit de l'État français, elle est posée depuis 45 ans, mais elle est posée de façon de plus en plus forte depuis à peu près 10 ans. On dit, mais là, plus on avance, plus on va dans le mur, les autres font pas comme nous, on a vraiment quelque chose à faire. On a l'impression qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de réflexion, mis à part dire, on attend la croissance. Vous voyez, c'est la fumée blanche là qu'on attend, en disant, il y a plein d'argent qui va arriver quand on va réussir à avoir de la croissance, donc il n'y aura plus de problème. Non, elle n'arrive pas, et ça fait des années qu'elle n'arrive pas. Moi, quand j'étais haut conseiller des finances publiques, tous les ans, on surestimait la croissance, et à la fin, on disait, on est encore en déficit, encore plus que prévu. C'est-à-dire que non, il y a un vrai problème structurel, et là, effectivement, quand Emmanuel Macron est en train de dire à son ministre, mais peut-être, je dirais à son gouvernement, et peut-être à ses amis, en disant, mais on n'a pas réfléchi là à une solution structurelle quand quand même, il n'y a pas un certain nombre de points sur lesquels il faut travailler, sachant, répétons-le, que les dépenses publiques sont les plus élevées du monde, de l'OCDE, on va dire, allez, on a même battu le Danemark de ce point de vue, et d'autre part, nos services publics se dégradent. Mmh. C'est-à-dire, si les systèmes français marchaient de façon formidable, qu'on avait la meilleure santé, la meilleure éducation, la meilleure armée, on dirait, bon, à la limite, oui, bah, il faut que les citoyens contribuent, mais même pas. C'est-à-dire que tout le monde dit ça se dégrade de partout, et c'est de plus en plus difficile à gérer cela, ou plutôt à gérer le déficit qui devient abyssal.
Pour revenir à cette question à propos de Bruno Le Maire, on entend que ce sérieux budgétaire cacherait des ambitions présidentielles. Est-ce que, oui, c'est... Gabriel Attal a réagi là-dessus. Il a dit, moi, je ne crois pas qu'il y ait une ambition présidentielle derrière ce sérieux budgétaire. Pour emmener les Français, enthousiasmer un pays et préparer une campagne, le débat est de savoir s'il vaut mieux 5,1 ou 5% ou 4,9. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, il y a d'autres sujets dont il faut parler.
Je pense qu'il n'a jamais enterré ses ambitions présidentielles. Certes, il avait pris une telle raclée à la primaire qu'il avait à ce moment-là cru que peut-être le temps était derrière lui, mais il a objectivement très très bien géré le début de la crise Covid. Il a repris à ce moment-là un poids extrêmement certain. Il a été de tous les gros dossiers de réindustrialisation en France. Et il y a eu un moment quand même, il y a encore assez peu de temps, il y avait une sorte de vista où on faisait un peu mieux à un moment que les Allemands. Et à sa mini décharge, il faut quand même se souvenir, pour préparer l'émission, j'ai regardé, il y a deux ans, hein, il disait le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Sauf que derrière, à chaque fois qu'il l'a dit, et souvent Emmanuel Macron, parfois sans même prévenir Bercy, typiquement quand ils ont décidé d'un bouclier sur les prix énergétiques, Bercy a été appelé quelques heures avant, ça a coûté des dizaines de milliards, c'est pas un, deux milliards, des dizaines de milliards d'euros, et avec un pari qui était, si on aide les Français, ils vont consommer derrière, comme l'expliquait très bien Pascal, ça n'est pas arrivé. Alors ça aurait peut-être été encore pire sans cela, mais une grande partie de la hausse de notre déficit de cette année est liée quand même à cela. Donc objectivement, il a une responsabilité. Vous savez, en psychologie, on dit il a la dissymétrie de la responsabilité. Donc il y a un moment, quelqu'un doit prendre le bâton de l'erreur. Inévitablement, il est ministre des Finances. Si on est dégradé, c'est ce que disait un peu Raphaël tout de suite, il faudra quand même qu'il y ait des responsables. C'est-à-dire que c'est quand même, il y aura une sanction politique qui devra être prise. Alors après, la question...
Il pourrait quitter le gouvernement ?
J'en sais rien, je ne vais pas m'amuser à faire ce genre de pari, mais en tout cas, on est obligé de constater que c'est un échec, et Philippe le disait très bien à l'instant, c'est-à-dire que si toute l'Europe était dans la même situation que nous, parce qu'on pourrait se dire tout le monde a eu le Covid, tout le monde a eu la crise, tout le monde a eu l'Ukraine, tout le monde a eu le Proche-Orient. Les Espagnols ont considérablement réduit leur dette. Effectivement, le Portugal est en excédent, 1,2 point d'excédent, c'est quand même extrêmement fort. Et les Allemands, qui n'ont pas de croissance, trouvent le moyen d'être encore à peu près dans les clous qu'ils avaient fixés. Accessoirement, on va mal aussi parce que nos amis allemands sont en récession. C'est-à-dire que nous, dès qu'ils toussent, on s'éternue. On avait un peu oublié ça à un moment, mais malgré tout, c'est notre premier partenaire commercial de très très loin. Si l'Italie va mal en ce moment, c'est la même raison. C'est parce que l'Italie est la zone industrielle de l'Allemagne, et donc eux... Ils sont comme nous en Italie, à chaque fois qu'ils pensent repartir, ils reculent. Mais voilà, en tout cas, il y a ces points-là aussi importants à mettre sur la table.
Je vous voyais réagir, Raphaël.
Oui, il y a une forte tension, effectivement, entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ces derniers jours, nourri plutôt par l'Élysée d'ailleurs, avec des mots peu amènes à l'encontre du ministre de l'Économie et des Finances. Partir maintenant n'aurait pas vraiment de sens, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. Mais le moment politique de l'année 2024 sera probablement le prochain projet de loi de finances où il y aura des choix très difficiles à mener pour 2025, pour 2026 et jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et là, vous aurez peut-être deux postures politiques, c'est-à-dire qu'il y a deux choix. Trois choix en réalité, trois voies pour rétablir les comptes publics. Soit vous augmentez les impôts, ce que souhaite une grande partie de la majorité, et une task force pour taxer les rentes, voir ce qu'il en ressort, a été mise en place à l'Assemblée nationale.
On en parlera tout à l'heure.
Pour trouver des recettes. Si vous augmentez les impôts, Bruno Le Maire l'a déjà dit quasiment officiellement, il quittera le gouvernement. Soit vous taillez dans les dépenses de manière courageuse, importante et massive. Et à ce moment-là, c'est d'autres candidats putatifs à l'élection présidentielle qui peut-être sortiront du gouvernement. Je pense notamment à Gérald Darmanin, qui a construit sa carrière politique sur une culture plutôt social. Trois, vous laissez courir les déficits, ce qui est la voie privilégiée par Emmanuel Macron depuis quelques années maintenant. Et là, c'est la sanction des marchés financiers qui nous fera attraper par la patrouille.
Donc ils sortent tous.
Vous évoquez là, une hausse d'impôts. Est-ce qu'il y a un plan caché de hausse d'impôts, comme le dit Eric Ciotti, qui parle par ailleurs de Waterloo financier?
Plan caché, on va dire, Bercy a toujours dans sa manche un certain nombre de possibilités d'augmentation de la fiscalité. C'est-à-dire que quand vous êtes en déficit, je dirais, et on va dire Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, mais même la Cour des comptes, enfin l'ensemble de la structure de l'État français, c'est bien qu'il peut y avoir un certain nombre de solutions. On est d'accord avec là des montants qui sont astronomiques, hein. C'est-à-dire que on est juste pour essayer de coller au déficit. C'est jamais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'équilibre, ou voire même au niveau des déficits d'autrefois. Donc on a bien sûr des hausses d'impôts possibles, en sachant à chaque fois que, un, toujours pareil, la France, c'est le prélèvement obligatoire le plus élevé, et toujours pareil aussi, on a dit, ah mais les impôts ont baissé. En réalité, les prélèvements obligatoires, ils ont cessé d'augmenter, ils ont baissé un peu par rapport à l'année dernière, mais on est les records de l'histoire de France. On n'a jamais été aussi élevé. Donc effectivement, on dit, ah bah oui, il y a tel impôt qui a disparu, mais en réalité, vous avez des prélèvements dans tous les sens qui vont faire qu'à la fin, vous êtes bien obligé de faire rentrer l'argent. Donc il y a toujours des solutions, toujours pareil, ce sont des choses qu'on a vues dans le passé, très pratiquement, quand vous avez Bercy qui va proposer des solutions, je me souviens par exemple, une année, on disait, on va taxer les résidences secondaires, bah, vous faites le truc Excel en disant, il y en a tant, ça va rapporter tant. Sauf que l'année suivante, ça ne rapporte pas du tout comme prévu, parce que bah, les gens, ils ont vendu leur résidence secondaire quand ils ont su que ça allait être fiscalisé. C'est-à-dire que vous avez plein de tableurs qui peuvent fonctionner théoriques en disant on va faire rentrer l'impôt, mais l'impôt effectivement, il faut, surtout quand on est à des niveaux très élevés comme ça, il faut que en réalité vos extrapolations fonctionnent. Dans la plupart des cas, quand vous êtes dans de l'augmentation massive, ça vous tombe dessus. C'était à l'époque quand François Hollande est devenu président et que Pierre Moscovici, aujourd'hui président de la Cour des comptes, qui était son ministre des Finances, a dit trop d'impôts va tuer l'impôt. Hein, c'est-à-dire on sentait, on disait non mais ça va pas marcher. Effectivement ça marche pas. Et vous avez plein de... Alors après on l'explique, on a des cédants dans l'air pour dire ah ben oui, mais en fait, ah ben on s'y attendait pas, mais alors en fait, c'est pas rentré à ce niveau-là. Mais en fait, vous pouvez l'anticiper, c'est-à-dire que si vous faites des augmentations massives, ça rentrera jamais comme on le pense, ça vous permettra de faire passer votre loi de finances, ça vous permettra peut-être de passer aussi l'examen à Bruxelles pour pousser le problème un petit peu plus longtemps.
Question de téléspectateurs, ne pensez-vous pas que, comme d'habitude, ce sont les retraités appartenant à la classe moyenne qui vont encore trinquer? Pascal est belle.
Oui, en effet, c'est toujours les classes moyennes qui trinquent. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se dit qu'il y a un problème du côté des plus âgés parce qu'ils ont un taux d'épargne énorme. Et on oublie, en fait, cette poche d'épargne qu'il y a eu pendant le Covid, qui est toujours là. Il y a des milliards qui sont restés chez ceux qui consomment peu. Et donc, finalement, on imagine bien que peut-être on pourrait ponctionner du côté des plus âgés qui ont beaucoup d'épargne. Donc, est-ce que ça sera les classes moyennes? On préférerait que ce soit les classes aisées du côté des retraités qui finalement, pourraient aider, en fait. Hein. On pourrait imaginer que c'est à cet endroit-là parce qu'ils consomment très peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait des projections tout le temps en considérant que c'est toujours la consommation qui va tirer la France. Alors qu'on est... Au niveau du vieillissement de la population, on est au-dessus des pays de la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'on a un taux de personnes âgées qui est au-dessus. Donc finalement, on vieillit plus vite que les autres, notamment parce qu'on a moins d'immigration, parce qu'en ce moment, la natalité est en train de baisser. Et donc, on a toujours cru que l'économie allait être tirée par ça. Mais quand une population vieillit, hein, c'est 28% de taux d'épargne chez les plus de 70 ans, c'est que 3% chez les moins de 30 ans. On est un des pays d'Europe où on a l'écart de revenus le plus élevé entre les plus de 50 ans et les moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'on a, on soutient pas les jeunes, en fait. Alors que ceux qui consomment et ceux qui ont envie de consommer en ce moment, il y a une envie de consommer qui est énorme, ce sont forcément ceux qui s'installent. Et quand on vieillit, on a déjà tout, on a moins besoin de consommer. Alors bien sûr, il peut y avoir de l'entraide, c'est ce qui se passe, mais ce n'est pas équitable. C'est-à-dire que si on compte sur les plus âgés pour aider les petits-enfants, ça ne marche que dans les foyers où les petits-enfants ont des grands-parents qui peuvent les aider. Donc on sent bien qu'il y a un déséquilibre entre générations. Ça fait 15 ans qu'on en parle et c'est toujours vrai. C'est-à-dire que de plus en plus le temps avance, plus le salaire des retraités, plus le niveau de vie des retraités augmente par rapport aux plus jeunes. Et donc ce déséquilibre-là ne va pas dans le sens d'une redistribution qui est équitable et surtout d'une consommation qui pourrait être beaucoup plus dynamique. Les plus âgés sont ceux qui sont les plus sobres, en fait. Hein. Ce sont ceux qui prennent en compte la transition écologique et qui choisissent de moins consommer.
Ça rejoint ce que disait Jacques Attali dans le sujet tout à l'heure sur les retraités qui ont un niveau de vie supérieur aux employés du secteur public et ont même un niveau de vie supérieur à celui du privé. Est-ce que les retraités sont des nantis, Emmanuel Duterte ?
Non, je ne dirais pas ça, c'est impossible de dire ça. Surtout que vous avez quand même une part non négligeable des retraités qui ont des petites retraites et qui ont de grosses difficultés à finir les fins de mois, puisqu'il y a quand même une grosse inégalité entre les riches retraités et ceux qui ne le sont pas. Donc je pense qu'il faut faire attention, et je n'utiliserai pas ce mot-là. La seule certitude, et là c'est les chiffres qui le disent, même si c'est une moyenne, effectivement, comme le disait très bien Pascal, les retraités vivent mieux, ont plus de pouvoir d'achat, alors aussi principalement parce que, quand on voit ces dernières années, le coût de l'immobilier, la façon dont ça a augmenté. Quand vous êtes retraité, si vous avez eu la chance d'être propriétaire, généralement, vous avez fini de payer votre maison et donc vous n'avez plus ce coût démentiel à devoir faire. Et surtout, par rapport aux actifs, et notamment les moins aisés, on a tous beaucoup de dépenses contraintes. C'est-à-dire que vous êtes bien obligé d'aller au travail. A priori, vous êtes obligé de vous habiller pour aller au travail. Bon, quand on est retraité, s'il y a un peu moins de sous, on fait la petite balade en moins, on ne va pas utiliser sa voiture. Et puis, on peut potentiellement attendre avant de se réveiller. Donc, il y a aussi ce côté dépenses contraintes. Là, on l'a vu avec l'inflation, beaucoup de salariés qui travaillent, qui ne s'étaient pas retrouvés en difficulté avec l'inflation, se sont retrouvés complètement acculés à la fin du mois. Donc oui, les retraités vivent un peu mieux. Et surtout, les retraités ont bénéficié ces derniers mois d'une indexation par rapport à l'inflation de leur niveau de retraite. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont salariés, notamment dans le privé, qui n'ont pas vu leur fiche de salaire augmenter comme l'inflation. Donc effectivement, après, Raphaël le dira sûrement mieux que moi.
Ou réduire...
Ils ne le feront pas avant les européennes, parce que sinon, il n'y aura plus personne qui votera pour la liste d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même un gros terreau de vote pour eux. Donc malheureusement, il va sûrement falloir attendre les européennes pour prendre une telle décision. Mais d'un point de vue, si on se place d'un point de vue objectif et purement économique, on cherche des milliards. Là, c'est plusieurs dizaines de milliards qui partent à chaque fois. Donc oui, il faut...
Chaque année, plusieurs dizaines de milliards.
Rien que sur l'indexation, oui. Donc il faut effectivement arrêter de l'indexer, ou en tout cas pas au même niveau.
Alors, écoutez, on va prendre l'avis des intéressés. Bonjour Christian Bourreau. Vous êtes en visio avec nous. Vous êtes le président de l'Union française des retraités. Vous dirigez aussi la revue Le Courrier des retraités. J'imagine que ce qu'on vient de dire ici va vous faire réagir.
Eh bien, écoutez, j'espérais que vous alliez me donner la parole. Parce que vraiment, j'ai tout entendu. Alors, le revenu des retraités est plus élevé que celui des actifs. Faux ! Que le niveau de vie des retraités soit marginalement plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Quand je dis marginalement, les spécialistes parlent de 1%. C'est vrai. Mais là, on mélange des retraités avec le nouveau-né, le ceci, le cela, etc. Donc, déjà, une belle chose.
Alors, pas niveau complète, de vie, pas 1%, c'est 6%.
1,6.
Pardon. Je vous laisse continuer, Christian Bourreau.
L'écart de 1,6 au lieu de 1%. Oh, c'est 1,6, hein, d'accord.
Oui.
C'est ce que j'appelle marginal. Donc j'accepte tout à fait la correction de monsieur. C'est vrai. Autre chose, cette histoire de arrêter l'indexation des pensions. Ouais, super, génial. Ça va rapporter 12 milliards. On oublie simplement que si les retraites font partie des prélèvements obligatoires, il n'y a pas de doute. Il n'empêche que dans ces prélèvements obligatoires, il y a des cotisations sociales et il y a des impôts. Et les retraites sont financées essentiellement par des cotisations sociales. Alors c'est vrai qu'une partie d'argent public intervient pour financer une partie des retraites. Mais où ? Ça concerne un petit nombre de régimes qui sont structurellement déficitaires. Ils sont connus, je n'en citerai que deux, je parlerai... des régimes spéciaux, tous les ans c'est 7 milliards. Je parlerai également de la fonction publique d'État. La fonction publique d'État n'a pas de cotisation de retraite définie ex ante, mais ex post, elle dit, la cotisation implicite pour la fonction publique d'État, ça sera 74%, alors que pour le privé, c'est complètement différent. Désolé du chiffre, mais...
On vous entend, Christian Bourreau, mais vu l'état des finances, on a aussi évoqué la situation des jeunes, de la difficulté d'entrer dans l'emploi. Est-ce que les retraités seraient prêts à des gestes de solidarité ? Et lesquels ?
Alors, c'est un point très important. Alors, je vais vous dire de manière très très claire. Les retraités sont des citoyens comme les autres. Donc, quand il y a des efforts à faire, ils doivent y participer comme les autres. En revanche, il y a quelque chose qui est inacceptable, c'est que les retraités soient traités de manière discriminatoire. Et ça, c'est absolument inacceptable. Traiter de manière discriminatoire, c'est ce que je viens d'entendre en disant après tout, augmenter de 5% les retraites, etc., tout ça pour un certain régime, c'est absurde, etc. Non, c'est l'argent des retraités dont il s'agit. Ce n'est pas de l'argent public, ce n'est pas les impôts, c'est les cotisations qui sont utilisées de cette façon. Mis à part l'intervention effectivement de l'État, donc des impôts, pour financer les quelques régimes déficitaires, j'ai cité les régimes spéciaux, la fonction publique d'État. Voilà.
Merci beaucoup, Christian Bourreau, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union française des retraités. Pardon, on voit assez mal sur l'écran, mais on vous a entendu de toute façon. Vous vouliez peut-être réagir à ce qui vient d'être dit.
Oui, peut-être. Enfin, donc là, on a une réaction véhémente. Mais je crois qu'on a quand même cette vraie question qui est posée, d'ailleurs, entre parenthèses, qui, quand on disait, évidemment, il y a 17 millions de retraités, ce sont des électeurs. Ils vont aux urnes, en plus, les retraités. Donc, évidemment, ils intéressent. Mais malgré tout, on a, sur la philosophie, un retraité à payer ses impôts pendant toute sa vie. Il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Donc, lorsqu'on compare, effectivement, quand vous êtes vieux, vous êtes en général un peu plus aisé que quand vous êtes jeune. Mais on va dire, c'est l'élément normal de la vie. On est bien là dans le sentiment que, alors, on a un certain nombre de problématiques typiquement françaises. Et l'une des problématiques typiquement françaises qui a été au cœur de la réforme des retraites, c'est en disant, mais peut-être qu'on va à la retraite trop tôt. C'est-à-dire, effectivement, du coup, il y a beaucoup plus, je dirais, de retraités par rapport au nombre d'actifs. Mais ensuite, quand on est en train de dire, on doit prélever, et je pense qu'effectivement, M. Bourreau n'avait pas tort en disant, de toute façon, ça, c'est typiquement des choses sur lesquelles le Conseil constitutionnel peut s'exprimer, en disant, on n'a pas le droit de faire discrimination dans la population française. Vous ne pouvez pas dire, vous allez devoir payer plus fort parce que vous êtes retraité. Mais en revanche, vous allez avoir effectivement des impôts. Les retraités payent aussi, la CSG, quand ils ont une contribution, ils payent la TVA. Alors, on va dire, ils n'épargnent pas beaucoup. Vous disiez, ils épargnent beaucoup. Oui. Mais leur épargne, elle n'est pas sous le lit ou sous la cheminée. Elle est investie en général massivement en assurance vie, qui elle-même investit massivement en dette d'État, justement. Ils financent le déficit sur lequel ils ont très très peu de rémunération. Donc je pense que là aussi, il faut faire très attention. On est tout le temps en train de dire, la solution, oui, je sais, c'est de prélever mon voisin. Donc effectivement, quand vous êtes le voisin, là, effectivement, vous êtes retraité, vous insurgez. Mais voyez, pour pas traiter le problème au fond, qui est un problème structurel français, répétons-le, depuis des années, et que les autres traitent, alors, quand je dis, oui, d'ailleurs, entre parenthèses, ça fait un jeu de mots. En Grèce, il est évident, par exemple, qu'on a réduit les retraites quand il a fallu réduire le déficit. Mais on a agi sur tout le reste. Les retraites ne sont pas, évidemment, exonérées. Là, pour le coup, quand on disait tout à l'heure, ce sont des citoyens comme les autres, évidemment, ils ne sont pas...
Et tout le monde était concerné.
Tout le monde était concerné. Les retraites aussi. Mais dire juste les retraites, parce qu'effectivement, ah, ces gens-là, ils ont de l'argent, ils sont vieux, ils ont de l'argent, donc vous l'avez raison, mais attention, pas tout ça.
On n'a jamais parlé de réduire.
Non, mais désindexer, ça veut dire pour réviser.
Bah oui et non.
Si vous n'avez pas l'inflation, ça veut dire que vous perdez en pouvoir d'achat.
On n'est pas obligé d'être à 100% de l'indexation.
Ah bon, ça veut dire donc que vous perdez un petit peu.
Bah, comme les salariés du privé.
Oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire que vous réduisez. Donc, on est d'accord, vous réduisez. Ce qui était l'élément sur lequel, quand un retraité a signé, quand il payait sa retraite, quand il était actif, on lui disait, maintenant, vous allez avoir, vous inquiétez pas, une retraite qui sera indexée. C'est tout ça aussi, évidemment, qui sont les messages. Très compliqué d'entrer là-dedans. Et on dit après les élections, mais à mon sens, ce sont des débats qui sont explosifs. Parce que c'est l'engagement de l'État, c'est l'engagement du système français, à chaque fois en disant, ah bah oui, c'est à vous de faire un effort, parce que les autres, les autres peuvent pas. Mais oui, mais ça, c'est vraiment compliqué de uniquement raisonner comme cela, à mon avis. Mmh. Et on a la réaction forte. L'avantage des retraités, c'est qu'en général, ils descendent peu dans les rues aussi.
Oui, mais ils vont voter.
Je pense qu'il faut faire attention à ne pas stigmatiser une partie de la population. On voit la réaction de ce monsieur et on n'est pas là pour pointer du doigt les retraités. Ceci étant dit, on peut poser quelques faits froids sur la table. Le niveau de vie, alors les revenus, il parlait des revenus tout à l'heure, les revenus en retraite sont inférieurs évidemment à ceux des actifs. Le niveau de vie moyen de nos actifs reste légèrement supérieur à celui des actifs, c'est quand même
donc,
un changement en 30
par
ans
actifs, vous dites.
Total de paradigme absolument de la société. C'était le contraire il y a 30 ans. Aujourd'hui, le taux de pauvreté le plus élevé, il est chez les jeunes et le plus bas chez les retraités. Alors encore une fois, il n'est vraiment pas question d'appauvrir nos retraités. C'est pas du tout ça la question. Mais c'est la question de la place que prennent le poids des pensions dans notre production de richesse nationale, c'est un quart de la dépense publique, nos retraites. C'est sensiblement supérieur à tout ce qui se pratique ailleurs en Europe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les retraites. On ne baissera pas, évidemment, les retraites. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de financement à trouver, alors même que ces retraites reposent sur les actifs. Ce sont les cotisations des actifs qui payent les pensions des retraités qui sont de plus en plus nombreux. Et on a une courbe démographique qui baisse. Et donc, les actifs vont être de moins en moins nombreux. Donc, à un moment, on arrive dans un cul-de-sac. Et enfin... parler de discrimination, mais enfin, la réforme des retraites qui a repoussé de 2 ans l'entrée, l'effort est entièrement porté par les actifs. Les retraités ne participent absolument pas à cet effort de 15 milliards, ce qui n'est pas grand-chose, ce qui est d'autant moins grand-chose d'ailleurs que l'augmentation de 5,5% des pensions l'année dernière coûte 14 milliards d'euros. Donc en réalité, la réforme des retraites qui a mis la France à feu et à sang pendant des mois a été annulée, le gain financier a été totalement effacé par l'augmentation des retraites l'année dernière. Et donc on ne coupera pas à un moment ou à un autre à ce débat sur la désindexation, c'est-à-dire qu'on n'augmentera pas aussi vite que l'inflation, c'est vrai, les pensions des retraités.
Mais on a bien compris que ce ne serait pas pour tout de suite, en tout cas, de toute manière, pas élections. Avant les élections.
Probablement.
On va partir au Portugal maintenant, où beaucoup de retraités français ont décidé de s'installer pour la douceur de vivre, certes, mais aussi pour l'exonération totale d'impôts pendant 10 ans. Pour certains, l'échéance approche. Alors vont-ils rester ou rentrer en France? Nous leur avons posé la question. C'est un reportage de Constance Meyer, Arnaud Fora et Aurélie Saner.
Avec ses maisons blanches qui bordent ses côtes et ses paysages sauvages, l'Algarve dans le sud du Portugal a tout d'une carte postale. Un charme qui a fait de Gérard un touriste éternel. Cet ancien informaticien bancaire a posé ses valises de retraité ici en 2015.
Orange et Portugal, les meilleurs.
Un cadre de vie paradisiaque auquel s'ajoute une douceur fiscale. Comme tous les retraités étrangers arrivés avant 2020, Gérard a bénéficié d'un cadeau du gouvernement portugais. Une exonération totale d'imposition pendant 10 ans, un avantage désormais révolu pour tous les nouveaux arrivants.
Je ne suis pas portugais, je n'ai personne de ma famille qui est d'origine portugaise ou d'acquaintance portugaise. Je n'avais jamais mis les pieds de ma vie au Portugal. C'est un reportage télé qui m'a dit, qui m'a fait ouvrir un peu l'œil, et pourquoi pas? Pourquoi pas les voir? Le reportage montrait des expatriés, pas seulement français, qui s'étaient installés au Portugal et qui trouvaient qu'ils avaient fait le bon choix. J'ai essayé, ils ont fait le bon choix. Ils sont quand même pas tous bêtes. Hein. Allons voir. Ben, j'étais conquis. Hein.
Une décennie à recevoir des lettres du fisc portugais, comme beaucoup en rêveraient.
Une feuille d'impôt qui est de, je peux vous dire des montants, j'ai rien de secret, hein, qui est de 45 000 euros de recettes à la dernière litre, telle net à payer, en portugais bien sûr, zéro.
Est-ce que vous avez déjà calculé ce que vous avez pu économiser grâce à cet avantage fiscal?
Ah ben, on va dire les 15 000 euros par an, au total sur 10 ans, ça prend 150 000 euros.
Son exonération prend fin l'an prochain. Et comme tous les Portugais, Gérard va devoir mettre la main au porte-monnaie.
Est-ce que vous comprenez que le gouvernement portugais ait décidé de retirer ce cadeau fiscal qu'il faisait quand même aux étrangers?
Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire par rapport à certains Portugais, ça peut être une injustice, il y en a certains qui le vivent comme ça. Non, parce qu'on amène de l'économie dans le Portugal. Or nous, retraités, on n'a plus besoin d'école, on n'a plus besoin de centre de loisirs, on n'a plus besoin de crèche, à la limite l'hôpital, c'est tout. Et encore, la plupart des Français que qu'on connaît vont dans les hôpitaux privés, donc ils payent, ou ils vont se faire soigner en France. Ouais, d'accord.
Gérard sera imposé à hauteur de 35%, soit 5% de plus qu'en France. Mais qu'importe, il compte bien finir ses vieux jours sous le soleil du Portugal, comme Jean-Michel, 75 ans. Cet ancien entrepreneur s'est installé dans ce village de pêcheurs il y a 7 ans pour profiter de sa retraite.
La région de l'Algarve est appelée la Californie de l'Europe pour une raison bien précise, c'est les 320 jours de soleil que l'on a. Et en plus, l'océan, les plages qui sont magnifiques. Et sincèrement, c'est mon coin de paradis.
Jean-Michel a encore 3 années devant lui avant de devoir payer des impôts au Portugal.
Voilà, bon dia, obrigado.
En vivant ici, il économise environ 1 000 euros par mois sur sa pension de retraite française.
Ma vie de retraité a changé pour beaucoup de choses. pour tout ce qui est mes activités journalières, où je peux prendre, par exemple, un coach pour une salle de sport, ou que je pourrais pas en France, hein, ou que je vais faire un golf pratiquement tous les jours ici, qu'en France, ben, entre le droit d'entrée et le parcours, c'est horriblement cher. Les restaurants, ici, je pourrais y aller matin, midi et soir, on ne le fait pas, mais on pourrait le faire. En France, les retraités, c'est la vache à lait des gouvernements. Déjà, la première chose que le gouvernement actuel a dit, on va taxer les retraités, on ne va pas augmenter les pensions. Je ne vois pas pourquoi. Nous, on a cotisé pour favoriser les retraites des personnes qui étaient en retraite. La retraite est un droit, mais ce n'est pas... on ne doit pas enlever ce droit, on ne doit pas le diminuer, parce qu'on a participé à l'enrichissement de la France.
Près de 40 000 Français profitent d'une retraite dorée au Portugal. De quoi faire grincer des dents une partie de la population locale confrontée à la crise économique.
Ils sont nombreux. Est-ce qu'ils sont encore nombreux, ces retraités, à partir?
Non, ça pèse pas beaucoup, les gens qui partent de la France pour partir à la retraite. C'est vrai que les retraités, ils sont souvent une double résidence, en fait. Hein. C'est aussi ça qui fait que, finalement, le Portugal a arrêté, parce que ça pose des problèmes sur le prix du logement, en fait. Hein. Et ça pèse. Il y a la même chose en France, en fait. Hein. C'est le fait qu'en ayant deux résidences, évidemment, on occupe deux logements, donc ça en fait moins pour ceux qui ont du mal à se loger, et c'est plutôt toujours les jeunes. Hein. Donc, ils sont pas nécessairement... voilà, il n'y a pas tant de gens qui partent. Et notamment, tout le monde n'a pas des conditions, n'a pas ce niveau de revenu aussi pour partir, en fait. Hein, et les retraités n'ont pas tous les moyens d'aller au Portugal.
Et beaucoup n'ont même pas, d'ailleurs, une pension suffisante pour subvenir aux besoins essentiels et doivent prendre un deuxième boulot à temps partiel. On va rejoindre en visio le sociologue Serge Guérin. Bonjour, vous êtes spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité. Professeur à l'INSEC, votre dernier livre, « Et si les vieux sauvaient la planète ?» est publié aux éditions Michelon. Ces retraités qui quittent la France, qui ont trouvé ou retrouvé du pouvoir d'achat, là on les voit, mais est-ce qu'on a d'avoir parfois l'image de retraités aisés, consommateurs, privilégiés?
Bonjour. Oui et non. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une partie des retraités, alors ceux du Portugal en sont un bon exemple, parce que généralement ceux qui sont partis là-bas, c'est plutôt des gens qui avaient des revenus importants et donc qui avaient un gain justement fiscal très 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 important. Voilà. Donc globalement, il y a cette image-là des retraités. On les imagine passant leur vie en croisière et autres, et ça existe. Bien évidemment, mais enfin, on va dire, c'est 20% des retraités. Globalement, la vie à la retraite n'est pas nécessairement celle dont on parle. La vie à la retraite, c'est d'abord, je rappelle, des revenus pour une partie, en particulier les femmes, qui sont souvent assez modestes. Et puis, ce sont aussi des gens qui sont hyper impliqués dans la société. Les gens qui sont dans le tissu associatif. Sans les retraités, il y a un paquet d'associations qui pourraient fermer les portes. Ce sont des gens qui sont très impliqués, tout bêtement, dans la garde d'enfants. Deux tiers des familles se font aider pour la garde d'enfants par les grands-parents. Si les grands-parents se mettaient en grève, ça serait assez compliqué les sorties d'école, par exemple. Ce sont aussi des gens qui sont très impliqués dans le tissu local. Un tiers des maires sont des retraités. Donc là aussi, et souvent des toutes petites communes. Donc c'est pas, voilà, ils le font pas du tout pour l'argent, mais par une implication très forte. La question des aidants, les aidants bénévoles, un aidant sur deux est un retraité. Donc quelqu'un qui accompagne un parent, un compagnon, une compagne, parfois un enfant qui a en grande difficulté de santé, par exemple. Et il y a même une petite partie retraités qui sont des gens qui sont des acteurs économiques extrêmement importants parce que tout simplement, ils ont monté ou ils continuent de s'occuper d'entreprises. Puis on rappellera aussi que 54%, alors là, c'est les plus de 50 ans, donc on est au-delà des retraités, mais une grande partie de la consommation est générée par des retraités. Pour eux, bien sûr. Mais par exemple, un tiers des jouets sont achetés par des retraités. Ils ne gardent pas les jouets pour eux. Il se trouve qu'ils offrent les jouets, par exemple, à leurs petits-enfants. Donc, ils contribuent aussi à l'économie globale.
Et en parlant de leurs dépenses, ils ont aussi des dépenses de santé qui prennent aussi une place importante dans ce budget des retraités.
Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que la mutuelle que l'on avait quand on était dans l'entreprise, bon, pendant 2 ans, elle dure, elle continue. Mais ensuite, c'est à vous de financer votre mutuelle sans l'aide de l'entreprise. Et évidemment, comme vous arrivez sur le tard, la mutuelle est plus élevée parce que vos risques de santé peuvent être plus élevés, tout bêtement. Et puis, je ne sais pas, il n'y a pas les tickets restaurants, il n'y a pas un certain nombre d'aides comme ça qu'il y avait auparavant. Donc, la vie est globalement finie par être plus onéreuse dans certains cas. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que tous les retraités, alors une grande partie des retraités sont propriétaires de leur logement, 75%. Mais tout le monde n'a pas un 100 mètres carrés dans le Marais, au centre de Paris. Donc il y a beaucoup de gens qui ont une petite maison, qui est souvent d'ailleurs une passoire thermique, qui n'est pas très très bien adaptée et qui est assez loin, par exemple, des centres de santé, des centres commerciaux et autres. Donc ça pose aussi des problèmes de déplacement, par exemple. Vous avez besoin d'une automobile pendant ce temps-là. Bref, la vie n'est pas si simple que ça et qu'il y a finalement, chez le retraité, comme disait notre intervenant tout à l'heure, chez les retraités comme chez les autres, il y a une diversité de situations. Les retraités, c'est un statut, mais ce n'est pas une raison sociale, en quelque sorte. Il y a plein de manières de vivre sa retraite, il y a plein de manières d'être retraité. Certains cas, ce sont des gens plutôt privilégiés, même très privilégiés. Dans d'autres cas, ce sont des gens dans des conditions même très difficiles. Et entre les deux, évidemment, il y a toute une infinie de possibilités.
Et c'est toujours bon de le rappeler. Merci Serge Guérin d'avoir été en direct avec nous. Je suis sûre que vous avez plein de questions, vous qui nous regardez, et on y reviendra à vos questions SMS tout à l'heure à propos des retraités. On va évoquer les autres pistes d'économie. Vous évoquiez tout à l'heure cette task force qui a été mise en place pour une taxation des rentes. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Ça pourrait ressembler à quoi ?
Effectivement, on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a déjà une taxation des rentes qui a essayé d'être mise en place l'année dernière. Elle s'appelle, elle a un nom sympa, elle s'appelle la CRIM. C'est la contribution pour les rentes inframarginales, un nom très compliqué pour dire on va taxer grosso modo les énergéticiens et les armateurs qui ont fait beaucoup d'argent pendant la crise, et qui ont profité de l'inflation des prix, parfois de manière... exceptionnelle. Cette CRIM, elle devait ramener au départ 12,3 milliards d'euros quand elle a été évoquée. Pas de bol, l'inflation a chuté et les prix de l'électricité et du container aussi. Donc en fin d'année dernière, elle a été réévaluée à près de 3 milliards d'euros et en début d'année, Bercy a fait les comptes, il n'y avait que 300 millions de recettes dans cette CRIM. La CRIM ne paie plus. Dommage. Ils vont essayer de revisser un peu les bons boulons fiscaux pour remettre une couche dans le prochain budget et faire
donc,
en sorte que les énergéticiens...
Donc ça veut dire taxer davantage les profits des énergéticiens notamment.
Voilà, seront peut-être davantage taxés. Pas uniquement. Emmanuel Macron a aussi parlé de taxer les groupes qui feraient des rachats d'actions et peut-être au-delà tous les super profits qu'on pourrait trouver dans la crise. Bon, moi j'attends de voir parce que dès qu'on parle de hausse d'impôts, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, ça retombe toujours sur les classes moyennes, qu'on le veuille ou non. Gabriel Attal, comme Bruno Le Maire et Emmanuel Macron disent et répètent à l'envi que les ménages ne seront pas concernés par les hausses d'impôts, sauf que... n'importe quel étudiant en première année en fiscalité connaît la règle de l'incidence fiscale. Les entreprises répercutent toujours les hausses d'impôts sur le consommateur final. Le consommateur final, bah, c'est vous, c'est moi. Et donc, attendons de voir ce qui ressort de ce groupe de travail qui devrait rendre ses conclusions d'ici le mois de juin. Mais il est fort à parier qu'au final, eh bien, ce soit les classes moyennes... qui soient les dindons de la farce.
Elles seraient aussi touchées par un coup de rabot sur les crédits d'impôt, les classes moyennes, on parle notamment des services à la personne. C'est la Cour des comptes qui a estimé qu'il n'y avait pas d'impact sur l'emploi alors que ça coûte 9 milliards à l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jardinier, que l'aide à domicile, c'est terminé ?
Alors c'est vrai que ceux qui utilisent les services particuliers de ce type, c'est quand même plutôt les catégories de population, les classes moyennes supérieures en fait. C'est que... avant d'avoir à domicile un jardinier, il faut quand même avoir beaucoup de moyens. Donc ça a souvent été utilisé, en fait, de plus déduire des impôts les services aux particuliers. Donc ça peut être un endroit où on peut prendre un petit peu d'argent, mais ça ne va pas peser beaucoup.
Et avec le risque de développer le travail au noir.
Oui, ça inévitablement. Après, ils ont quelques petites niches sur lesquelles ils peuvent travailler, parce qu'ils avaient annoncé des baisses d'impôts qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Je pense notamment pour les entreprises. Il y avait une nouvelle baisse d'impôts qui était prévue pour ce qu'on appelle les impôts de production. Ils peuvent très bien la décaler. C'est pas une hausse d'impôts en tant que telle. Alors, ce sera un coup dur pour une partie des entreprises, mais ils peuvent continuer de la décaler. Et au même titre, et c'est vrai que là, comme le disait Raphaël, ça toucherait les classes moyennes, mais le gouvernement avait annoncé une baisse de 2 milliards d'impôts à compter de l'an prochain pour principalement les classes moyennes. Ils pourraient aussi l'enterrer ou la reculer ou la mettre à plus tard. Ça permet en sémantique de sauver la mise parce que ce ne sont pas des hausses d'impôts, mais ce sont des recettes qui pourraient, comme ça, rester en place. Donc ils ont quand même ces petits leviers-là. Le problème, c'est que ça ne suffira pas. Philippe rappelait tout à l'heure l'échelle. C'est-à-dire que là, ils ont déjà annulé 10 milliards de crédits, mais bon, ils sont allés chercher du côté des ministères. Ça se saurait s'il y en a beaucoup qui sont très bien dotés. Il va falloir en trouver 10 de plus. Et dans les années à venir, ça va se compter aussi en milliards en plus. Donc à un moment, ça va véritablement devoir se voir. Et le problème qu'on a eu aussi ces dernières années, c'est que chaque crise, un chèque, et souvent de façon complètement légitime. On l'a vu pour les agriculteurs. Personne ne peut dire que les agriculteurs sont des nantis. Mais il a fallu commencer par un chèque pour sortir de la crise. Et des situations comme ça, on en a beaucoup. Et à chaque fois qu'on essaye d'enlever un avantage, parce que la crise des agriculteurs, elle a aussi débuté pour ça, hein. On a enlevé l'avantage sur ce qu'on appelle gazole non routier. Bah, tout de suite, on l'a compensé parce que ça passait pas. Et ça se comprend pour les agriculteurs. Hein, c'est...
Peut-être tout à l'heure, vous avez prononcé le terme, donc moi, je n'osais pas en parler, mais vous avez raison de dire travail au noir. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le reportage au Portugal, c'est des gens, en fait, par rapport à la fiscalité, bah, ils trouvent une solution pour justement pas payer l'impôt. Mais quand vous êtes avec des prélèvements les plus élevés d'Europe et probablement du monde, prélèvements globaux sur les salaires, sur l'ensemble, mais évidemment que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les statistiques et dont on parle tout bas. Enfin, c'est bien sûr le black. Le fait que vous allez être, essayer de vous exonérer d'impôts, vous allez avoir ce que vous disiez, le petit boulot quand vous êtes retraité, évidemment, qui n'est pas forcément déclaré. Là, si on dit, on suspend, pourquoi on avait mis ces exonérations? Pour faire revenir, justement, dans le déclaré, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup, justement, de travail au noir. Donc on avait dit, il faut exonérer pour, de manière quand même à ce que, finalement, l'État récupère une partie.
Mais sauf que la Cour des comptes dit qu'apparemment, ça, il n'y a pas d'impact.
Mais la Cour des comptes, elle ne peut pas vous dire qu'il va falloir développer le travail au noir, ou en tout cas que la conséquence. Mais tout le monde le sait. Même l'INSEE, quand vous dites, mais on sait bien qu'il y a du travail au noir en France quand même avec... Ah non, c'est pas dans les statistiques. Bah oui, c'est le principe. Si c'est au noir, c'est pas dans les statistiques. Donc là, vous êtes avec tout le temps les dérives qui font qu'à la fin, quand vous faites avec la calculette combien rentre par rapport à ce qu'on avait prévu, ah bah non, ça rentre pas. Mmh. Hein, et je dirais là, bien sûr, que par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer, vous êtes tout le temps avec des pansements sur la jambe de bois, quoi. Vous allez inventer, et je répète, Bercy est formidable pour ça, hein, donc, et va inventer des niches, va inventer des solutions, va inventer des suppressions de niches après, etc. Et à la fin, vous vous rendez compte qu'on n'a pas avancé d'un iota, toujours pareil. À la limite, tout le monde serait comme nous. On pourrait dire, bon, ben oui, mais c'est le mal des démocraties occidentales. Il n'y a que nous comme ça. Même les Italiens font mieux. À la limite, je dirais, bon, ils ont une dette plus élevée, mais ils ont une trajectoire plus dynamique du point de vue de leur évolution de dépenses publiques hors intérêt. Donc il y a quelque chose qui ne va pas en France, c'est qu'on ne s'empare pas du problème structurel, parce que c'est jamais le moment. Il y a les élections qui arrivent, il y a les élections qui sont passées, il y a la croissance qu'il ne faut pas casser. Enfin, quand vous entendez le débat, là, c'était lunaire, quoi, sans arrêt. Ah oui, non, mais il ne faut pas casser la croissance. Après, il n'y a pas de sens, donc c'est pas le moment. Après, il y a les élections. Ah oui, mais vous comprenez, il y a le Front National, etc. Enfin, sans arrêt, vous êtes avec, qui entre parenthèses, hein, les extrêmes ne proposent strictement rien de ce point de vue. Même vous vous demandez comment ça va se passer s'ils étaient élus les uns ou les autres. Donc on repousse.
On va parler des fonctionnaires maintenant et des annonces de Stanislas Guerini qui ont fait beaucoup réagir. Primo mérite licenciement des fonctionnaires. Il a mis ses sujets sur la table et ça fait donc réagir Juliette Perrault, Ilana Azenko.
La petite phrase a fait l'effet d'une bombe mercredi.
Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique.
Stanislas Guerini sonne-t-il le glas de l'emploi garanti à vie des fonctionnaires? Explication de texte dès le lendemain pour éteindre l'incendie.
Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
Resserrer la vis, l'idée est séduite, notamment à droite. Le patron des Républicains au Sénat propose même un autre système, des missions ponctuelles plutôt que des contrats à vie.
Je pense que dans la fonction publique, la règle, ça devrait être le contrat. On vient pour 2 ans, 3 ans, 5 ans pour accomplir une tâche. Et puis soit on est réembauché, soit on quitte.
La gauche, elle, dénonce un faux débat.
Mais quel est le problème aujourd'hui s'agissant des fonctionnaires principaux? C'est leur recrutement, c'est l'attractivité de la fonction publique. Quand on est un ministre de la fonction publique de droite, il faut régulièrement s'attaquer au statut de la fonction publique plutôt que de se préoccuper de leurs conditions de travail, de la qualité du service rendu, de leur rémunération, de leur progression de carrière.
Et si l'amélioration de la rémunération, justement, passait par un complément de salaire? Stanislas Guerini a ouvert une porte sur le sujet. En évoquant la généralisation d'un dispositif, la prime au mérite.
C'est une façon de mieux rémunérer, mieux récompenser l'engagement des 5,7 millions d'agents publics qui, sur le terrain, font vivre nos services publics.
Une mesure évoquée par le président lui-même fin janvier, dans sa grande conférence de presse, et avant cela par un jeune ministre de l'économie, en 2015.
Je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser.
Dans les faits, cette prime existe déjà pour certains fonctionnaires. Le complément indemnitaire annuel, comme il s'appelle, est plafonné à 15% pour les meilleurs salaires. Le gouvernement voudrait étendre le dispositif. Mesure inutile, rétorquent les syndicats. Car dans toute la fonction publique ou presque, d'autres systèmes de primes existent déjà.
Pour les enseignants, par exemple, vous avez des accélérations de carrière qui sont possibles à certains moments, justement, en fonction de l'évaluation qui est faite de chaque enseignant. Et puis, vous avez aussi l'encadrement supérieur, ce qu'on dit les hauts fonctionnaires. Mais même les hauts fonctionnaires ont aujourd'hui des accélérations de carrière en fonction de leur prise de responsabilité. Donc aujourd'hui, nous disons ce dispositif existe.
L'idée d'une prime au mérite soulève par ailleurs une question. Quels seront les critères d'attribution? Alexis Corbière, député de la France Insoumise et ancien fonctionnaire de l'Éducation nationale, alerte sur le risque de partialité et dénonce une forme de dédain du gouvernement.
C'est quand même curieux de considérer que d'ores et déjà, le salaire récompense un mérite. Nos fonctionnaires ont du mérite. Nos services, ceux qui travaillent dans l'hôpital ont du mérite, nos professeurs ont du mérite, nos policiers ont du mérite, et on pourrait continuer comme ça. Ils ont du mérite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, si ce n'est méprisant de dire « si vous voulez plus, il faudra travailler plus ». Sous-entendu, si vous n'êtes pas bien payé, c'est que vous ne travaillez pas assez.
Stanislas Guérini doit présenter son projet de réforme à l'automne. La CGT a déjà déposé des préavis de grève dans les trois branches de la fonction publique pour une période qui s'étend du 15 avril au 15 septembre.
C'était quoi? C'était un ballon d'essai? Ça va se faire?
Oui, c'est un ballon d'essai, puis c'est toujours facile. Là aussi, on reparle à nouveau des élections, mais ça flatte une partie de l'électorat de droite qui pense qu'une bonne partie des fonctionnaires sont des nantis. Donc effectivement, ça flatte. Après, moi, ce qui me gêne un peu dans tout cela, c'est que l'État est un très mauvais employeur. Donc, si potentiellement on en est là, ou si potentiellement dans certains services il peut y avoir des blocages, une optimisation qui est assez loin de ce qu'on pourrait avoir envie, il suffit de temps en temps d'appeler la CAF ou ce genre de choses pour se dire bon, peut-être qu'on pourrait optimiser. Mais l'État est un mauvais employeur, déjà paye très mal à l'entrée, ne prévoit pas des trajectoires de carrière parce que tout ça est un petit peu sclérosé, même s'il y a des améliorations. Donc voilà, donc je pense qu'il faut déjà il faudrait revoir le principe dès le démarrage. Et puis dire aujourd'hui, d'une certaine manière, l'emploi à vie, c'est on va revenir dessus. C'est une des raisons pour lesquelles certains ont choisi également cette voie, une voie de sécurité, une voie de... Donc il faudrait là aussi mettre en place la fameuse prime du grand-père, hein, c'est-à-dire que seuls les nouveaux entrants seraient concernés, mais je pense qu'on est vraiment plus dans un ballon d'essai pour voir un peu comment ça va être pris par l'air du temps.
Après, ça existe, on l'a fait, hein, à la SNCF, les nouveaux employés de la SNCF n'ont plus le statut de fonctionnaire et la transition s'est faite de manière assez souple et normale, finalement, sans trop de heurts. Le régime, le statut de la fonction publique a été bâti en 1983 par un grand ministre, Anicet Le Port, sémillant communiste de l'époque, et il n'a quasiment pas été bougé depuis. Vous avez eu quelques réformes, mais c'est au millimètre près. En 2019, un des prédécesseurs de Stanislas Guérini, Olivier Dussopt, ministre délégué à la fonction publique, avait déjà essayé d'assouplir un peu les frontières finalement hermétiques qu'on a entre les trois fonctions publiques. Vous savez qu'il y a la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Bon, il y a très peu de mobilité entre ces trois fonctions publiques. Tout cela est en silo, très rigide. Très peu de moyens pour manager les équipes. L'avancement est quasiment automatique. Vous avez toute une kyrielle de primes, mais qui tombent pour tout, sauf au mérite de manière générale. C'est parfois assez inégalitaire d'ailleurs. Donc il y a un vrai chantier de modernisation qui doit être lancé, qui sera au bénéfice des agents de la fonction publique, très probablement au final, et du service public. Ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission. Nous sommes le pays qui dépensons le plus d'argent public au monde, avec un taux de satisfaction lamentable. On est en 27e position des gens les plus heureux, juste après l'Arabie Saoudite, dans un classement qui est sorti récemment. Est-ce que c'est normal, tout cela, à voir avec l'organisation de l'État, cette fameuse réforme de l'État qu'on a tant de mal à faire. Emmanuel Macron a essayé en 2017, il a échoué. Donc remettre un peu de modernité, s'adapter au temps moderne, faire rentrer la fonction publique dans le 21e siècle. Pourquoi pas, il faut que ça se fasse après dans le dialogue et sans trop de heurts.
On va passer à vos questions SMS. On commence avec Marc qui nous dit « On travaille toute sa vie afin de se construire une petite épargne pour sa retraite et on veut en plus nous la taxer. » Parce qu'elle est belle.
On n'a pas dit qu'on allait taxer les retraites. En fait, je pense qu'il y a des pays où il y a des plafonds sur les retraites et c'est ceux qui ont des retraites très importantes, qui en effet économisent beaucoup, mettent de l'épargne qui peut être réinjectée dans l'économie, mais pas toutes, hein, notamment le fait que 75% soit propriétaire, quand l'argent est sous forme immobilière, c'est pas réinjecté. Donc il y a peut-être des choses à voir du côté des retraités qui ont des grosses retraites.
Philippe Dessertine.
Oui, peut-être quelque chose d'implicite, on l'évoquait dans un sujet, mais c'est la question de la capitalisation, parce que la personne qui dit j'ai une petite épargne, qui évidemment m'aide dans ma retraite aujourd'hui, c'est un mode de fonctionnement qu'on trouve ailleurs. On voit bien que ça a été une question qui est revenue sur la question de la mutualisation de la retraite, ou mutualisation plus capitalisation, c'est-à-dire vous mettez de l'épargne et qui vous permet d'augmenter votre revenu. C'est une vraie question, parce que ça pose aussi une question passionnante, qui est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la capacité d'investissement des retraités. On a un mur d'investissement devant nous. On a un mur d'investissement qui peut être un mur très rentable, ou en tout cas qui pourrait créer de la valeur, créer une valeur très forte. C'est une vraie question à poser. Est-ce que finalement, cet argent disponible, on ne doit pas laisser justement évidemment les retraités. Là, il ne s'agit pas que l'État prenne les choses en charge, mais dire aux retraités, vous avez vraiment quelque chose à faire. Évidemment, derrière, immédiatement, vous allez avoir le débat sur on ne veut pas de capitalisation en France, même si dans les faits, il y en a déjà un peu.
Pour les fonctionnaires.
Sont les seuls qui absolument. Hein, donc là, vous avez peut-être derrière cette question aussi cette question du complément de retraite par l'épargne.
Alain nous dit, ayant cotisé 45 ans, j'ai du mal à accepter que ma retraite soit considérée comme une dépense pour l'État.
Non, mais ce n'est pas une dépense pour l'État, c'est un droit. Effectivement, les gens ont totalement travaillé pour obtenir leur retraite. Donc, c'est totalement un droit. Il n'y a pas du tout de question là-dessus. J'espère que je me suis pas mal exprimé tout à l'heure, mais à aucun moment, il ne faut imaginer une baisse des dépenses des fonctionnaires. La question que reposait tout à l'heure Raphaël, c'est la question de la progression au regard de l'inflation de la retraite. C'est la seule question. C'est-à-dire que doit-elle augmenter automatiquement, quasi du niveau de l'inflation, quand ce n'est pas le cas pour les salariés du privé et que ce n'est pas le cas pour les fonctionnaires. Mais bien évidemment que non, il ne faut absolument pas baisser les retraites. La retraite, elle est un droit, les gens ils l'ont acquis, et le montant de la retraite dépend de tout ce qu'ils ont cotisé avant.
C'est donc la récompense de décennies.
Récompense, c'est le juste droit au travail qui a été fourni par les uns et les autres. Donc
Sébastien nous dit, comment miser sur la consommation alors que les Français se serrent la ceinture, Pascal Ebel?
Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, mais justement c'est compliqué pour ceux qui sont actifs, qui ont besoin de consommer. Et donc c'est vraiment les classes moyennes qui ont des grosses difficultés en ce moment, parce qu'on a une charge du logement qui est énorme. En fait, on est le pays d'Europe où le poids du logement est le plus important. Donc en effet, ça touche la partie des gens qui sont pas encore propriétaires, donc c'est forcément ceux qui sont les plus jeunes, et qui doivent payer leur loyer, parce que ça continue de progresser.
Ça représente quelle part ?
Alors c'est 30% en fait, hein, on est à 30%, mais il y a 10 points d'écart entre les plus modestes. On n'avait pas ça il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le poids du logement, c'était le même, quelle que soit la classe sociale. Aujourd'hui, il y a 10 points d'écart. Ça pèse 10 points de plus chez les plus modestes. Donc en fait, c'est chez eux qu'il y a des difficultés, tous ceux qui ont cette charge du logement. Et on sait très bien, on sait faire de la prospective, hein, et de dire que dans les années à venir, ça va continuer de progresser. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'anticipe pas, alors qu'on sait qu'il y a une rénovation énergétique, qu'il va falloir investir. Et c'est vrai que on parle de ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un investissement qui doit se faire. Et donc tous les ménages vont devoir investir pour leur logement. Et donc il faut rééquilibrer les choses en fait, entre ceux qui ont beaucoup de moyens et qui ne se posent pas de questions en ce moment. Et on a encore dans les enquêtes les deux tiers des Français qui se restreignent. Ça n'a jamais été aussi haut, ouais, en fait. Hein. Et donc, il y a en effet une partie très importante, plus importante qu'avant, de gens qui pourraient consommer plus. Et c'est vrai chez les jeunes. Ils ont envie de consommer, mais ils ne peuvent pas parce que pour les jeunes, c'est impossible de se loger, en fait. Hein.
Avant de penser à taxer les retraités, ne peut-on pas taxer les super fortunes, Raphaël Legendre?
Ça, c'est le débat classique. Oui, c'est le débat classique qu'on a en France. C'est taxer les autres, ce que disait Philippe Dessertine tout à l'heure. Pourquoi on ne pourrait pas taxer les autres? Alors, les plus riches sont déjà extrêmement taxés. Ils sont aussi extrêmement mobiles. Et ils sont très peu, en réalité. Donc, ça rapportera. L'ISF qu'on a supprimé, c'est 3 milliards. Il nous faut 20 milliards d'économies l'année prochaine. Donc, ça ne suffira pas.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce C'est dans l'air en direct. Passez une très bonne soirée. Bon week-end. Lundi, vous retrouverez Axel de Tarlé.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.